Henri de Jean, qui est architecte et ergonome, et qui va nous dire de quoi lui-même de quoi il va parler.
Bonjour à tous, et c'est pas l'architecte ergonome qui va parler, mais c'est plutôt l'enseignant chercheur. Et je vais vous présenter une formule qu'on a mise en place il y a de nombreuses années, qui était surtout réservée au domaine industriel, c'est-à-dire amener des étudiants à innover dans les entreprises. Et il y a quelques années, on s'est intéressé au problème, à la question du vieillissement des populations, et nous avons mené plusieurs projets là-dessus. D'où le titre, qui est déjà un résultat, hein, c'est de voir comment construire un écosystème. Alors c'est un peu la tarte à la crème, l'écosystème, tout le monde en parle. Enfin, il faut employer les mots que tout le monde emploie. Sur l'enseignement, la recherche et l'application, au service de l'intergénérationnel, donc on, toutes les présentations d'aujourd'hui vont parler de l'intérêt générationnel, vous voyez bien qu'on est tout à fait en phase, et tout ça pour l'aménagement des territoires, et donc l'aménagement des territoires à différentes échelles, l'urbanisme pouvant aller jusqu'à la campagne. Donc, comment ça s'est construit? C'est la conjonction d'une problématique et d'une innovation pédagogique. Je vous présenterai donc l'innovation pédagogique tout à l'heure. Et la problématique, vous la connaissez tous, puisque vous êtes là, donc c'est le vieillissement de la population. Et comment essayer de traiter cette question aussi vaste, aussi large et aussi complexe avec des jeunes, c'est-à-dire des gens qui sont étudiants et qui doivent prendre conscience de ça aussi. Alors, qui l'ont plus ou moins. Pour vous dire, donc ces ateliers existaient depuis pas mal d'années et avaient un très fort succès. Et quand on a s'est posé la question du vieillissement de la population, on s'est dit, oh là là, les étudiants, qu'est-ce que ça va leur faire maintenant, il faut nous occuper des personnes âgées, alors que on crée l'industrie du bois, l'automobile, etc., etc. Hein, des tas de choses qui étaient beaucoup plus valorisantes, compensées valorisantes. Et quelle a été notre surprise, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de mauvaise appréhension de l'achat. Bien au contraire, puisqu'on a eu beaucoup de demandes et les étudiants se sont mis très facilement dans ce domaine-là. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est un peu la partie cachée de l'iceberg, c'est que tout le monde est confronté au problème. C'est-à-dire que finalement, on dit aux étudiants, mais bon, vous qui faites du théâtre, qui faites la comédie musicale de l'UTC, etc., vous dites, parce que moi je vois bien les grands-parents, c'est triste, tout ce qui se passe, etc. Et il y a des tas de choses à faire, et je vois bien que le problème n'est pas pris en compte comme il pourrait l'être. Donc on s'aperçoit que il y a un terrain favorable entre mettre des jeunes dont il faut faire l'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage là-dessus pour l'instant, à part les questions très spécialisées. Et donc, qu'un ingénieur puisse s'intéresser à ces questions-là, c'est à la fois bon événement pour lui, mais c'est aussi bon pour l'économie et c'est bon aussi pour le progrès technologique. C'est ce dont on va parler. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une mise en place d'une dynamique entre l'université et la société civile. C'est pour ça que je suis très heureux d'être là et je remercierai jamais assez Futurage de ces réunions où tous les gens qui ont parlé avant, à l'université, on ne les voit pas, la plupart du temps. Hein, et eux nous voient que de loin aussi. Et je trouve que c'est bien dommage, puisque nous sommes quand même un service public. Et que tout ça, ça va être intéressant. Alors, c'est une question majeure, le vieillissement, en multiples dimensions économiques, sociales et sociétales, culturelles, et on reviendra là-dessus, sur les aspects culturels et du changement culturel qu'il y a à ce niveau-là, mais aussi technologique. Et la partie qui est la moins étudiée, c'est la partie technologique. On voit bien que les gouvernants, eux, se sont intéressés à la partie sociale, à la partie économique, mais la partie technologique, c'est un peu le parent pauvre de ça. Et on voit bien que toutes les associations, tous les milieux qui existent et qui s'investissent à fond là-dedans sont beaucoup plus du domaine du social que du domaine technologique. Donc, une université de technologie, elle peut s'apporter quelque chose là-dedans, je pense que c'est presque son devoir. Alors, ce que l'on va donner, c'est une approche centrée sur l'homme, dans notre personnel, de la conception des aménagements urbains, intégrant les progrès technologiques. Alors, j'ai suivi déjà plusieurs choses, autant que je ne parle pas maintenant, parce que quand on a parlé à l'ANU de ça, et bien, il dit, oui, c'est très très intéressant, mais pour l'instant, donc, voilà, on est dans les économies d'énergie, le vert, etc., etc., alors que le problème est quand même très urgent. Donc, les gens comme vous, s'ils peuvent pousser, ce serait vraiment, je pense que ça serait vraiment très logique. Alors, nous avons fait 5 ateliers interdisciplinaires de résolution de problèmes, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est, sur ce thème. D'abord, qu'est-ce qui nous a commencé à faire ça? C'est que ces ateliers interdisciplinaires de recherche de résolution de problèmes marchent très bien, ce qui fait qu'on a déposé un projet européen et que nos partenaires, les Suédois, nous ont dit, mais écoutez, bon, l'industrie, tout ça, bon, nous, on en a fait un peu le tour, mais chez nous, on travaille beaucoup sur tous les aspects sociaux, les hôpitaux, la santé, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose sur les maisons de retraite? On le fait. Et c'est comme ça que ça a commencé avec une approche suédoise qui n'est pas du tout l'approche française. Tout ce qu'on a vu sur l'intergénérationnel, les maternelles auprès de ce que nous on appelle les EHPAD, ça existe. Et avec des problèmes, ce qui est intéressant de revoir, par exemple sur le jardin, quand on parlait du jardin tout à l'heure, l'aspect intergénérationnel aussi du jardin, comment on concevoir un jardin qui va à la fois prendre des petits-enfants et puis des personnes plus âgées. Est-ce que le jardin sera public ou est-ce qu'il sera fermé? Toutes ces questions tout à fait intéressantes. Et puis, là-dessus, nous avons, en Picardie, et avec la région Picardie, regardé le problème des aides à domicile et des EHPAD. Donc, les deux solutions sont présentées, c'est-à-dire soit vous restez à domicile et vous avez des aides à domicile qui viennent vous aider, soit vous rentrez dans les EHPAD. Alors, effectivement, la grande préférence des gens, c'est de rester à domicile, mais ça pose le problème, enfin la question de tous les travailleurs qui vont travailler avec ces gens. Et comme un de nos partenaires, je reviendrai sur les parties prenantes tout à l'heure, mais un de nos partenaires était la sécurité sociale, en quelque sorte, l'INRS, l'organisme de recherche de la sécurité sociale, nous a accompagnés là-dessus parce que c'est le domaine en France où il y a le plus d'accidents du travail. Avant, c'était bâtiment, c'était le domaine de. Le domaine où il y a le plus d'accidents du travail en France et le plus d'absentéisme, c'est du fait de tout ça. Et en plus, même des maladies professionnelles qui, avec le temps, sont reconnues, parce que ça prend plus de temps, c'est tout ce domaine de l'aide à domicile. Là-dessus, quand on a présenté les résultats, nous avons eu un bailleur social qui a dit mais c'est fabuleux ce que vous faites, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis preneur d'un atelier là-dessus parce que mon problème, c'est que j'ai 40 000 logements, j'ai souvent le cas d'une vieille dame qui est au quatrième étage, qui a eu son logement attribué quand elle était jeune et quand elle avait 3 enfants, donc elle a un 4 ou 5 pièces, et puis elle a perdu son mari, ses enfants sont partis, elle est toute seule là et elle n'est pas en changeux, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a demandé une aide pour prendre une chance à noir, etc., etc. Nous, on n'est même pas au courant quand on va aller au bailleur social, les choses se font comme ça, et il faudrait remédier à ça, parce qu'effectivement, ce qui serait bien, c'est que cette dame-là, parce qu'on le refait sa baignoire, elle ne reste pas chez elle parce qu'elle est au quatrième étage, elle n'a pas l'ascenseur, et qu'on ne prend pas l'ascenseur. Ça serait beaucoup mieux que si j'ai un 2 pièces qui se libère, un 3 pièces qui se libère au rez-de-chaussée. Et moi, en tant que bailleur social, ça m'intéresse beaucoup qu'elle reste parce que c'est un facteur d'équilibre dans le quartier. Donc voilà, on a travaillé avec eux pour ça. Après, on a travaillé avec une entreprise, ça s'appelle le Musbi, pour les maisons de retraite, le Musbi, et ensuite, nous avons travaillé avec Sorbonne Université, où on a fédéré la faculté de médecine, l'Université de technique de Compiègne, l'Institut de géographie, sur, et Futura, qui nous a largement accueilli et largement aidé, sur un thème qui est bien venir sur son territoire. Alors, une première constatation, c'est que sans concertation, on vient ici, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que tous les thèmes que vous avez présentés sont ressortis aussi des ateliers. C'est-à-dire qu'il y a une convergence qui est très très nette, et toutes les questions qui ont été posées, nous on a apporté beaucoup de choses de ce que vous êtes capable de dire, mais on pourrait aussi beaucoup en apporter. Tout ça, ça a été confirmé aussi par les parties prenantes avec lesquelles on a travaillé. Tout ça a été complété, détaillé, circonstancié. Ce que l'on peut amener, c'est de la veille technologique par rapport à ça, puisque nous, nos étudiants sont à fond sur la technologie, et donc ils vont dire, bah, tiens, ça, il y a une solution. Alors, non seulement ils peuvent amener des solutions pour la situation actuelle, mais l'avance des générations fait que, on parlait d'Internet tout à l'heure, les gens qui vont entrer maintenant en maison de retraite ou qui vont arriver à 80 ans, commencent à savoir déjà se servir d'Internet. Donc il y a une avance, alors prenons de l'avance et, plutôt que d'arriver une fois que les choses sont faites. Le regard donc, des futures générations et l'évolution culturelle des futures générations. Il y a déjà une évolution culturelle très très forte, nous, entre notre génération et celle de nos parents, c'est que la génération de nos parents, les personnes âgées, les gardent chez elles. Et ça, c'est une évolution culturelle européenne, que nous avons accueillie. Je me rappelle, au moment de la canicule, vous parlez de la canicule, j'avais une conférence en Inde. Et qu'est-ce qui se passe en France? Un pays développé, vous laissez mourir vos vieux chez eux. C'est pas trop pour répondre. Mais vous ne faites pas ça. Vos parents, vous les avez chez vous. Je dis, mais non, ils ne veulent pas rester chez moi, c'est pas possible. Ils ont pas envie. Ils ont envie d'être autonomes, etc. Et on voit bien ce changement qui vient, mais qui n'est pas partagé dans le monde entier. Et donc, les regards et la vie extérieure. Alors, je vais vous dire un peu sur notre modèle pédagogique. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait un enseignement intensif de 2 semaines. Alors, intensif, ça veut dire qu'ils n'ont à faire que ça. Donc, ils sont libérés de tout le monde. Et pendant 2 semaines, on ne travaille que sur un sujet. C'est interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va mélanger les étudiants de tous les départements de l'UTC. C'est-à-dire que vous avez des gens en génie biologique, vous avez des gens en génie chimique, des gens en génie mécanique, des gens en génie informatique. Et alors, souvent, les directeurs des départements, quand je leur demande de faire l'appel d'offres pour les trucs, ils disent « Oh, enfin, Pierre-Henri, qu'est-ce que tu connais faire, nous, pour les vieux, en génie informatique ?» Je dis « Détrompe-toi. Bon, ben, c'est bien pour toi, on l'ouvre et ils auront le droit de venir. » Et c'est tous les projets qui ont été toujours les plus intéressants. Et là, la surprise, dire, ah ben effectivement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ensuite, donc là, il y a les métiers de la santé avec la faculté de médecine. Et donc l'idée, c'est l'immersion dans le monde réel pour identifier les problèmes, les témoignages d'experts, les utilisateurs. Amener les étudiants à faire un diagnostic, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas ce qu'ils font. C'est à eux de découvrir un problème et une question. Donc, vous voyez, on sort du système d'enseignement classique où c'est le prof qui dit ce qu'il faut faire. Là, c'est les étudiants qui vont trouver des choses et qui demandent l'avis du prof. Ce qui est une pédagogie tout à fait inversée. Et donc, ensuite, il faudra proposer et tester des solutions. C'est-à-dire qu'il y aura l'aspect de démonstration. Je propose quelque chose, mais je prends le risque de vous montrer que ça va marcher. Donc ça s'inscrit dans une démarche qualité, et donc c'est une forme d'enseignement de type formation action, et l'idée c'est d'apprendre à apprendre ce qui est le leitmotiv de la communauté européenne, de tous les projets là-dessus, sur lesquels la France est très en retard. Les principes, donc c'est un travail d'équipe, donc c'est de la co-conception. C'est la pluridisciplinarité qui amène une pluriculturalité, parce que on s'aperçoit que la culture de l'ingénieur, ce n'est pas la même que la culture du médecin. C'est clair. Que l'aspect prévention, prévention des risques professionnels, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, les aidants, ils se cassent le dos, ils font des dommages qui sont importants, eh bien on s'aperçoit que c'est un facteur d'innovation et que ça n'est jamais pris comme une porte sur l'innovation alors que ça en est une fameuse. Et donc du développement durable. Ensuite, c'est d'aborder la question de la réglementation et de la créativité. Comment on peut être créatif malgré la réglementation? Parce que souvent, si vous voulez, quand vous, au départ, quand vous faisiez l'enquête auprès des écoles d'architecture, vous dites, oh ben finalement, il suffit d'appliquer les normes, qui n'arrivent jamais, qui n'arrivent au gouvernement, et donc qui arrivent comme une contrainte, au lieu d'essayer de les avancer, de travailler à l'aide. Et donc ensuite, c'est intensif, c'est du temps resserré, et donc ça fait qu'ils sont vraiment obligés de travailler tous ensemble, et la contrainte de temps fait partie des forces de ce système. Donc, les parties prenantes, donc les experts, et donc il y a une itération permanente entre la théorie et la pratique. Ça permet aux étudiants de voir à quoi sert ce qu'ils ont appris d'après la théorie. Donc les étudiants, on a 20 à 30 étudiants de cursus différents. Alors, des enseignants, c'est deux permanents plus des ponctuels, mais aussi à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire il y a des gens comme vous qui peuvent dire, donner leurs problèmes, donner leurs attentes, donner leurs témoignages, qui vont nous apprendre énormément de choses, aussi bien aux enseignants qu'aux étudiants. Des entreprises témoins, des lieux d'observation, et donc un lieu de réalisation, c'est-à-dire un grand atelier maquette qui va permettre de Alors, comment ça se passe? Les deux premiers jours, vous avez une présentation du contexte et de la demande, donc c'est un jour de conférence. Vous avez l'immersion en situation réelle, c'est deux jours. On va suivre les aides-soignantes, ou on va rester chez la personne, on va voir comment elle organise sa journée. On va rechercher des thèmes et on va constituer des équipes neurodisciplinaires. Et ensuite, on va faire du travail en groupe. Et vous avez une proposition ensuite, nous allons faire des propositions devant le jury pluridisciplinaire. Et là aussi, le jury pluridisciplinaire est très intéressant parce que vous imaginez qu'on est rassemblé dans le jury tous les gens qu'on a vus ce matin. Mais ces gens-là ne se rencontrent pas d'habitude. Et déjà là, vous avez des échanges qui se font qui sont très très intéressants. Voilà, une image, étudier les conférences, l'observation terrain, alors là vous avez d'autres choses, vous avez vraiment l'observation terrain sur les quartiers, mais là je vous ai présenté autre chose que je vous présente, c'est dans le domaine industriel, vous voyez ça c'est sur les salles blanches, tous les appareils qui ont été au-dessus de la salle et qui vont rendre la salle dans laquelle on va mettre le moins de choses possible, qui vont rendre la salle la plus propre possible. Définition des thèmes et des groupes, donc on va définir les thèmes en groupe et on va constituer des équipes pluridisciplinaires, donc il est vrai qu'il faut mélanger les disciplines. Après, ils vont faire du travail en équipe pluridisciplinaire, ils vont faire de la recherche. Alors vous voyez, le système est l'inverse, enfin, est différent du système académique classique. Le système académique classique, ce qu'on apprend aux étudiants, c'est de dire attendez, vous allez étudier une question, avant d'étudier une question, vous allez vous documenter sur cette question. Eh bien, nous prétendons maintenant, après expérience, que c'est la meilleure façon de faire du papier collé. Notre démarche est inverse. Vous y allez complètement naïvement, vous ne savez rien du tout, vous allez faire votre propre idée, et une fois que vous aurez fait votre propre idée, vous irez regarder, pour ne pas inventer le tiède, si ça n'a pas déjà été fait. Et comment on procède? Et ça change beaucoup les choses. Alors vous voyez, là, c'est l'atelier, on va construire des maquettes, échelle 1, donc pour pouvoir tester les choses. Et vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'appareil qui était au-dessus de la salle blanche, et bien vous voyez ce qu'ont fait les étudiants. ils ont fait un local technique qui est au-dessus du bâtiment, où on peut permettre de mettre toutes les choses d'une façon beaucoup plus propre et qui devient un vrai espace de travail. Alors, l'industriel avec lequel on a travaillé là-dessus, il dit, comment ça se fait qu'on n'ait pas fait ça plus tôt? Mais ça ne coûte rien par rapport à ce que coûte mon installation, c'est rien du tout. Et vous voyez, l'innovation, quand on a des innovations produites, ça va être une lumière qu'on va pouvoir changer par-dessus. Et donc, on n'aura pas besoin de rentrer dans la salle. Alors, les cultures professionnelles, hein, vous avez donc différentes cultures d'ingénieurs, donc, comme je vous ai dit, donc qui sont plutôt orientés sur la technologie et qui sont plutôt du domaine du rationnel. Vous avez des cultures humanistes, architectes, designers, avec un aspect qui est beaucoup plus émotionnel, et des cultures réduction des risques, la qualité, les aspects économiques, les aspects des coûts. Et puis après, vous avez aussi l'ergonomie, l'organisation humaine, etc. Et puis vous avez une culture géographique, alors là c'est pas à chaque fois, ça c'est tout, et on voit bien qu'on a tout à fait intérêt à regarder des questions comme celle-ci à travers plusieurs fenêtres. Parce qu'il y a des solutions qui peuvent être aussi nous inspirer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on remet par rapport à ça? On va apprendre aux étudiants à faire un rapport orienté entreprise. Donc ce n'est pas un rapport académique, c'est le rapport entreprise. En général, on commence par la conclusion. On dit, ben voilà ce qu'on a trouvé, et après on justifie pourquoi on a trouvé ça. Alors que le rapport académique, c'est un tel à l'écrit, et peut-être on fera tout dans ce sens-là. Et donc, ça, c'est une vraie découverte pour les étudiants. Donc, c'est des rapports que l'on pourrait servir après à faire des appels d'offres, à faire des cahiers des charges, etc. etc. Et donc, vous avez ensuite ce rapport, et plus une présentation publique. Et certains projets sont à sortir assez intéressants pour être poursuivis dans d'autres lieux. Et c'est justement ce qui s'est passé en informatique. C'est là où il y a le plus de projets qui sont repris ensuite pour le développement informatique. Alors là, j'ai une petite question. Vous vous rendez compte la valeur marché qu'aurait ça si c'était fait par un cabinet conseil? De mettre 40 étudiants ingénieurs, parce que en général, je ne critique pas, parce que je ne fais partie avant, mais en général, vous vendez une prestation, et puis celui qui va faire la prestation, ça s'agit. En général, vous avez. Là, c'est quand même une force de frappe tout à fait différente. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques éléments de. Une solution logicielle. On va refaire les logements, hein, par exemple. Eh bien, on s'aperçoit que tout ce qui existe, c'est pour les gens valides. Et là, on va faire un logiciel qui permet d'intégrer la place que prend une personne, par exemple, suivant l'aide qu'il a, suivant qu'il a un fauteuil roulant. Alors, avec le mauvais réflexe français qui peut plus que moi, on fait tout pour les fauteuils roulants. Mais vous avez des espaces pour fauteuils roulants qui deviennent gênants pour d'autres handicaps. Donc, adapté par rapport aux handicaps. Et on intègre aussi l'aide. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la surface effectivement du fauteuil roulant, mais il y a la surface aussi que prend la personne qui va aider. Hein, donc, là, les applications. Alors, avec un outil pareil, on peut revoir le logement. Et donc là, le parc immobilier donc du bailleur social, tous les appartements ne sont pas, ne peuvent pas être adaptés. Mais on va regarder sur son parc immobilier quels sont les appartements qui peuvent être adaptés. Et donc là, vous avez l'appartement avant et après. Alors vous allez voir, donc ça c'est la maquette après, donc tout le monde peut le regarder, c'est assez amusant. Le mobilier, on refait du mobilier adapté pour ça, avec des aides pour pouvoir mettre ses chaussures tout seul, etc. Déposer son manteau sans risque de tomber, etc. Et puis vous voyez déjà arriver eh bien, nos étudiants avec leur nouvelle culture, c'est-à-dire qu'il y a une petite tablette qui est intégrée dans le mobilier. Vous voyez là le truc en rouge, c'est qu'on incline les étagères parce que c'est du lourd, comme ça on va pouvoir prendre les choses plus facilement, etc. etc. Des petites astuces. D'un point de vue plus fondamental, on va amener des changements dans les méthodes de détection des risques, par exemple, hein, les méthodes industrielles qu'il y a par rapport à ça, en rajoutant un aspect sur la technologie et la détection détection du risque une fois que la chose est arrivée. Alors que dans le domaine industriel, c'est pour éviter que les choses arrivent. C'est ce qu'il faut faire. Mais il faut essayer de voir comment ça se passe une fois que la chose est arrivée. Donc vous avez l'intelligence de l'objet. Vous voyez, plutôt que d'avoir un truc sur ça, comme vous l'indiquez, à détecter la chute, simplement, alors maintenant ça existe, hein, c'est à l'époque, ça n'existait pas, mais enfin, on va avoir des choses qui existent, qui permettent de détecter ça. Alors l'interprète numérique pour les aidants, qui va permettre une télégestion des déplacements et optimiser les déplacements. Alors là, vous voyez, nos ingénieurs en logistique, ils voient, ben, attendez, finalement, optimiser le circuit d'une personne aidante, c'est la même chose que pour un livrant de plus tard. Hein, c'est tout. Les trucs existent, il suffit d'aller les reprendre et puis de les utiliser. Donc, une question de planning et des déplacements. Et alors là, les parties prenantes qu'on avait rencontrées avant, on avait fait le tour, ils ne nous avaient jamais posé ce problème. Et en fait, le problème numéro un dans les EHPAD et dans les organismes d'aide à domicile, c'est de gérer le temps. Donc là, on leur donne une aide fabuleuse. Le passage et la réception des informations entre les personnes et les différents niveaux d'information. Et bien ça, ça a été développé ensuite dans les outils informatiques qui ont fait réaliser une tablette qu'on a mis en essai. L'association d'aide à domicile au départ m'a dit c'est bien sur une tablette, mais ça serait mieux sur un smartphone. Et moi, je dis, attendez, un smartphone, on va payer un smartphone à chaque personne, c'est pas possible. Et puis, on s'en sert pour faire autre chose, etc. etc. 2 ans après, il avait une étude. Et bon, ça, c'est un petit peu comme ça. Ça marche. Et alors, pour revenir à l'intervention précédente, il y a l'appartement intergénération. C'est-à-dire qu'il y a le parc immobilier aussi qui existe, et comment réadapter notre appartement de salle de pièce, comment on va pouvoir l'adapter à un appartement intergénérationnel. C'est des étudiants qui ont travaillé là-dessus, en gardant l'intimité de chacun. Et c'est ce qui, il y avait des retours hein, d'étudiants qui travaillaient chez des personnes, et donc qui ont permis de définir qu'est-ce qui était le réaménagement le meilleur pour un appartement pour que les choses se passent le mieux aussi. Donc, vous voyez ici les solutions multi-échelles, l'appartement, l'immeuble, les abords. Alors, vous voyez, donc ça aussi, c'est des appartements qui n'avaient pas de vision sur l'extérieur. Et donc, là, ils ont fait une vision sur l'extérieur et la liaison avec le jardin. Ce qui sécurise en plus les niveaux. Hein. C'est-à-dire que, comme dans tous les bons lieux, ça a été une cinquantaine. Comme vous pouvez le voir, vous savez, vous avez une pelouse, bon, qui est plus ou moins entretenue, et puis c'est tout. Donc là, comment faire? Et donc, voilà un autre atelier où les étudiants ont travaillé sur le jardin intergénération, qui recoupe beaucoup ce qui a été dit là-dessus, à part que là, il y a la volonté de mélanger les générations et d'amener un lien social entre les générations par le biais du jardin. Donc ça dépasse le jardin thérapeutique. Il y a une petite partie qui sera du jardin thérapeutique, comme il a été dit un peu une mode, on sait ce qu'il est, donner d'autres éléments. La communication des activités, c'est-à-dire comment on doit communiquer, alors avec une partie papier et une partie web. Mais aussi, alors ça a été la grosse surprise, la très très grosse surprise, c'est une nouvelle activité. C'est un sujet qu'on n'aurait pas pu poser en tant qu'enseignant, parce que c'était politiquement tout à fait incorrect. C'est-à-dire que nous ont dit, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient garder un petit travail de temps en temps, des petites missions de temps en temps rémunérées, ça leur allongerait un peu leur revenu, et il y a des tas de choses qu'ils peuvent faire, comme les gardes d'animaux, la couture, la cuisine, etc. etc. Il y a plein d'étudiants qui vont dire, mais nous on n'a pas le temps, et même ma mère, je vois, elle n'a pas le temps de faire la cuisine. S'il y avait une voisine, quelqu'un à côté qui ferait le truc et qui viendrait, elle le prendrait. Voilà. Et donc ça introduit du lien social, et du lien social artificiel, du lien vraiment important. Bon, c'est très nouveau. Moi, quand je vais dans les conférences internationales, je m'aperçois qu'on est quand même un peu le village d'Astérix hein, en France hein, par rapport à la mondialisation, parce que quand vous avez parlé de l'Association internationale de l'économie, vous avez tout un groupe qui s'appelle EGI, qui travaille sur l'âge de vieillissement, comment amener les gens à bien vieillir, et une fois qu'ils sont âgés, donc ça c'est dans le lieu de travail, et une fois après qu'ils sont âgés, comment continuer à vivre le mieux possible. Et toutes les conférences qu'il y a là-dessus partent du principe que la durée de travail va être allongée ou qu'on aura d'autres activités une fois la retraite. Donc vous voyez après des petits produits hein, comme ça qui sortent, dont des produits à développer, ça c'est un peu le problème. Bon, ça c'est pour les EHPAD. Ça c'est d'autres éléments, ça c'est pour déplacer les personnes, donc c'est l'aspect ergonomique. Donc l'exosquelette, bien au dernier congrès d'ergonomie, ça paraissait. J'ai un étudiant qui avait travaillé là-dessus quand il avait pris à l'université, qui était tout fier de montrer que les entreprises à l'université, c'est comme ça. En France, c'est pour l'armée, c'est pas des trucs comme ça. C'était il y a 6 ans. Au dernier congrès d'ergonomie, il y a une boîte américaine qui est sortie. Je l'ai testé. C'est vrai que vous pouvez ouvrir des paquets sans aucun problème. Alors là, c'est assez drôle. Les étudiants, vous voyez, le problème, c'est quand on déplace un malade, c'est de passer des courroies en dessous de la personne, à l'arrière sous la personne et de la soulever. Et donc les étudiants ont l'idée de l'intégrer directement dans le drap. Ils étaient tout fiers d'eux. Et bon, là aussi, les parents disent, oh là là, il faudra acheter des draps spéciaux, bon, c'est un peu compliqué. Qui va les fabriquer? Bon, alors on peut être un peu dessus. Et puis, je vais au congrès d'ergonomie à Melbourne, et je vois une entreprise suédoise qui avait sorti. Je regarde, aux étudiants, et regardez, vous avez une bonne idée, parce qu'à la fois, les étudiants, ils ont copié. Je dis, mais non, c'est pas possible. Ils ont copié une semaine, mais ça prouve qu'eux, ils ont travaillé pendant 3 ans, et vous, en 15 jours, vous avez trouvé une solution qui était quand même intéressante. Alors, la liaison de l'hôpital, c'est le dernier qu'on a fait que nous devions faire dans notre secteur, mais Charles Fon nous a fait laisser tomber. Donc ça s'est fait avec l'hôpital de Montpied, et vous voyez l'aspect toujours logistique qu'a l'étudiant en ingénierie. Hein. Donc elle n'est pas le malade à domicile, il va téléphoner, donc là on va travailler sur comment téléphoner. Le dialogue avec les secours, donc pas d'urgence, c'est les infectants, les urgences médicales, et après toutes les possibilités. Et donc, on va étudier toutes les possibilités pour voir comment aménager le bain en conséquence. Hein, donc, bon, voilà, les exemples, évidemment, c'est l'hôpital de Compiègne, et vous voyez la pente, c'est tout là. Alors, ils ont aménagé les choses en mettant quelques bancs au milieu, mais vous imaginez une personne, même une personne non âgée, mais qui arrive avec une main cassée, ou tout comme ça, c'est toujours compliqué. Le réaménagement de tous les parkings, donc on va de ce travail-là de sortir un cahier des charges type d'un parking pour un hôpital de telle taille. La signalétique, alors évidemment il y a la signalétique smartphone, je vais vous dire tout de suite, mais les trucs de genre BHV, le truc au sol qui marche très bien, hein. Alors l'autorisation de la gestion des sorties, l'autorisation des sorties, là vous avez des gens qui traînent dans les couloirs. Parce que il faut libérer la chambre, bien entendu. Sinon, ça va pouvoir accueillir votre malade. Et les gens ne pourront venir chercher la personne qui va sortir que le soir à la sortie du couloir. Donc elle reste toute l'après-midi dans le couloir. Donc l'idée d'un salon de sortie. Et le salon de sortie lui donne une autre fonction, c'est-à-dire de commencer à préparer la personne qui sort de l'hôpital sur sa future vie. Alors vous voyez le petit livret qui avait été lié en disant, ben voilà toutes les activités qui existent, commencez à préparer, voir les professionnels qui vont, qui, qui vont arriver et qui vont les assister ensuite. Alors, en public, c'était gérer, parce que ce sont les infirmières qui vont essayer de trouver une ambulance pour sortir. Ça leur prend beaucoup de temps, c'est compliqué, etc., etc. Et donc là, ils ont sorti un système donc, où on envoie toutes les demandes à tous les professionnels et c'est eux qui arrivent. Et donc ça va beaucoup plus vite. Et en plus, ça nous donne après effectivement le chemin, le meilleur chemin, etc., etc. Donc ça suffirait dans une image. Et pour terminer, alors là, c'est qu'un aperçu de tous les projets de l'Occident, il y en a encore beaucoup. Et pour terminer, ce qui intéresserait vraiment les équipes de l'Occident, c'est revoir la cartographie de l'urbaine en fonction de l'adaptation aux personnes âgées. Et donc, vous voyez les accessibilités, alors il y a plusieurs critères, hein, l'accessibilité aux soins, l'accessibilité au commerce, etc. Tout ce dont a besoin la personne âgée. Et on va définir comme ça des zones. On revient en vert. Là, c'est des zones qui sont. Alors, ça veut dire que la quelqu'un qui cherche un logement, c'est plutôt là qu'il faut aller. Mais ça veut dire aussi aux municipalités, attention, là, vous avez des points rouges, est-ce que vous les gardez ou est-ce qu'on essaye d'améliorer les choses aussi pour ça. Voilà. Alors, ensuite, après l'atelier, nous faisons une communication, notamment ici, ailleurs aussi d'un point de vue international. Et tout ça, ça donne des réflexions nouvelles par rapport à ça. Et on voit bien les changements culturels qui se font sur des nouvelles cultures qui se construisent sur le déplacement de la population. Donc, avec l'influence de la pluridisciplinarité, l'intergénération, la contrainte de temps et le travail de terrain. Donc, tout ça, ça va amener à faire évoluer sa culture. Et voir déjà comment elle a évolué. Ce qui est très bien. Alors, les résultats industriels et scientifiques, alors, scientifique pédagogique, c'est un facteur d'innovation, c'est clair. Donc, on voit qu'il y a tout un champ industriel qui s'ouvre par rapport à ça. Il y a la démarche holistique dans l'acte d'apprendre. C'est en regardant les problèmes réels, en parlant avec les parties prenantes qu'on apprend. C'est la dynamique de la conception. Et ensuite, c'est le défrichage d'un domaine nouveau et complexe. Alors, entrepreneurial aussi, ça développe l'esprit entrepreneurial avec des innovations durables, parce que tout le monde parle d'innovation, c'est aussi une tarte à la crème, mais ce qui serait intéressant, c'est un peu antagoniste de dire innovation durable, mais c'est quand même ça. Donc, comme on sait que l'application dit, toutes les solutions qu'on va trouver, elles vont avoir une durabilité importante. Les applications directes et différées, apprendre à dire attention, ça va être suffisant. Ça, c'est pas la peine, on abandonne ce projet parce que c'est pas mûr, ce sera pas fait pour. Apprendre la prise de décision aussi. Et puis alors, le captage du talent. C'est-à-dire que, et ce que je vous disais là, sur ce qu'on a fait avec par la entreprise, les entreprises qui étaient là, elles ont bien vu que les étudiants étaient les plus sensibles, et puis ils ont gardé. C'est une très très bonne chose. Économique et sociale, donc une opération transgénérationnelle qui amène une cohésion sociale, ce que l'on fait pas systématiquement, mais ce qu'on fait aussi parce qu'ils ont un service qui s'appelle la culture scientifique et technique et l'innovation. Il y a dans toutes les universités. Et qui est chargé de faire la liaison entre l'université et la société civile. Et ce que nous avons fait, c'est que les résultats des étudiants, on les a montrés à des lycéens, alors notamment tout un travail qui serait à faire avec les lycées techniques qui eux peuvent développer des choses. Parce que là aussi, pour l'instant, c'est bien beau de faire des innovations, mais après, il faudra qu'on ait des techniciens qui soient capables de les appliquer. Et ça, tous les lycées techniques, il y a besoin d'intervenir chez eux. Et là aussi, la même chose, les élèves, mais ça leur donne un but fantastique. Quoi. Alors que vous avez des classes désolées, comme vous connaissez tout ce qui se passe dans le domaine, et bien là, vous leur donnez un but. Et ils se sentent utiles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai appeler ça les systèmes diversifiés, c'est ce qui fait. Alors, au-delà de l'aménagement, ben, l'ennui et la dévalorisation sociale de tous les gens, de tous les aidants, hein, de tous les gens qui tournent autour de ça, donc les bénéficiaires, ils ont un sentiment d'abandon et d'angoisse, donc ça, on va revenir là-dessus. Les pertes intellectuelles de santé, et là-dessus, là, même des améliorations qui sont nettes. Les salariés, eh bien, c'est la démotivation, la stratégie, les turnover, les accidents, donc là-dessus, on revient là-dessus. Et les secteurs et établissements, l'image négative. Bon, dernièrement, il y a eu toute une campagne sur les EHPAD et l'image très négative, disons, qui est loin d'être justifiée souvent dans les EHPAD, si ce n'est effectivement la perte de liberté qui a été montrée, mais c'est et le fait de l'utilisation. On s'aperçoit que là-dessus, on peut faire quand même beaucoup d'économies et qu'il y a beaucoup de manques à gagner que l'on va pas. Et donc, c'est une dimension de micro-économie qu'on introduit au niveau des étudiants qui est aussi quelque chose de très valable. Mais alors qu'il n'est pas vu, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Vos réflexions étaient exactement les mêmes, parce qu'il y a que quand on va parler à ces deux choses-là, on va dire oui, mais non, ça c'est pas. Tant mieux, continuez, mais c'est ce que ça se passe. Alors qu'effectivement, il y a énormément d'argent à gagner là-dessus. Voilà. Hein, donc les atouts, hein, donc 30 000 dans tout département, toute institution, et donc aussi dans les écoles, des enseignants experts, des institutionnels, donc l'INRS, la RAC, l'Agence du travail, les entreprises témoins, la liaison avec les lycées, donc on essaie de faire, et puis pour tout un autre sujet.
Oui, mais depuis longtemps, on a quelques questions aussi, je pense. Merci en tous les cas de nous avoir montré à quel point le vieillissement de la population est une opportunité pour tous. Hein. Merci. Merci.
Pas pour ce que
je fais. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à tous ces exposés qui étaient fort intéressants. Et je vous remercie d'avoir évoqué l'histoire du temps. Je pense qu'on a tourné quand même beaucoup et avec un grand intérêt sur le hard, c'est-à-dire le cadre, et que vous avez évoqué pour l'appropriation du chez-soi, je crois que le rythme a une importance extraordinairement forte. Alors je voudrais juste citer une petite anecdote des pannes qui ont fonctionné en essayant de répondre de façon individualisée au rythme des personnes qui sont là, c'est-à-dire de proposer la toilette à l'heure où la personne le souhaite, c'est-à-dire soit le matin tôt, le matin tard, l'après-midi, avant le dîner, après le dîner. Et des résultats fabuleux sur ce sentiment de s'approprier cette liberté pour laquelle vous avez insisté, la liberté dans les rythmes est quelque chose de tout à fait capital pour s'approprier. Il y a des gens qui allaient prendre leur café avant de se lever, d'autres qui allaient plutôt être déjà tout prêts pour le prendre. Enfin, je voulais citer des détails qui ont l'air de rien, qui sont très très importants pour les personnes âgées qui perdent la liberté de gérer leur rythme. Et je voulais souligner ce côté du soft par rapport au hard, dont on a donc beaucoup parlé ce matin, qu'il ne faut pas oublier. Alors j'apprécie beaucoup. Je pense que le fait que vous ayez associé l'ensemble des personnes concernées à votre réflexion et à votre construction me paraît extraordinairement intéressant et positif, naturellement. Je crois que les vieux ont envie qu'on fasse avec eux, pas pour eux. Merci beaucoup.
Alors en fait, pour répondre à ça, pour aller dans votre sens, il y a deux axes. D'essayer d'amener le plus d'autonomie possible et de la technologie aide. Donc, on a dans nos cartons des toilettes qui permettraient à la personne d'aller aux toilettes tout seul. Et pas d'être toujours accompagné, et de pas être obligé de sonner, etc. C'est pour ça que je suis contacté de mon amour pour essayer de pousser à ce qu'on puisse développer ce projet. Et bien d'autres choses, une salle de bain bien faite. Fait qu'une personne peut beaucoup plus se laver toute seule. Il y a des endroits où on met la douche, il y a des tas de choses qui peuvent être faites. Et autre chose, tout ce qu'on peut, alors le chariot que je vous ai montré, mais d'autres choses, on peut aussi aider les aidants pour qu'ils consacrent le plus possible de leur temps aux relations sociales avec la personne, c'est-à-dire servir le café ou parler avec en servant le café, ça c'est une très bonne chose. Pousser à charger dans les couloirs, ça n'amène rien, ça n'amène rien de plus. Donc c'est là aussi où on peut amener, avec les automatisations, des choses tout à fait pratiques. Et alors, oui, ça, alors, les étudiants, c'est arrêt.
Merci beaucoup pour votre exposé. Je crois qu'on en a plus pour la question. Je vais prendre pour un buffet pendant cette pause, mais ça reprend à. D'accord, donc reprise à l'heure prévue. Bon appétit.